Bonsoir à chacun.
Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc. Luc, le chapitre 18 et le verset 8, une simple parole pour introduire ce message. Et après nous lirons dans Ésaïe. Mais Luc d'abord, chapitre 18, le verset 8.
C'est un peu aussi la transition par rapport au message qui a été donné dimanche sur le fait de réveiller notre foi.
Il est question ici d'une question justement que Jésus pose sur la foi. Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre ? Quelle est votre réponse ce soir, si je vous demandais ce que vous en pensez ? Oui ou non ? Oui ? C'est une question, il faut répondre. Oui. Moi, je réponds oui, de manière sûre. Mais quelle sorte de foi ? Je rajoute une question. Quelle sera la foi que le Fils de l'homme va retrouver ? Quand Jésus va revenir, quel type de foi il va trouver ? Je crois qu'il va trouver beaucoup, beaucoup de foi qui ne sera pas la bonne. Je crois qu'il va trouver beaucoup de foi qui va être, comme la Bible appelle, la foi vaine, la foi qui ne sert à rien, la foi qui est inutile, la foi qui est vide. Je crois, par contre, qu'il va aussi trouver des hommes et des femmes qui auront cette foi qui plaît au Seigneur. Et on a besoin, quand on entend un message comme dimanche, on a besoin de plonger dans la parole et de voir un modèle de foi. Le modèle de foi par excellence, c'est, bien sûr, il y a Jésus, mais l'autre modèle de foi par excellence qu'on prend souvent, c'est Abraham. Et je voudrais qu'on puisse lire quelque chose qui a été dit sur Abraham. Avant de lire dans la Genèse, allez dans Ésaïe, Ésaïe 51, où il est question justement de porter nos regards sur Abraham. Et ce soir, c'est ce que je voudrais qu'on fasse de tout notre cœur, qu'on puisse porter nos regards sur Abraham pour avoir cette foi que le Seigneur attend qu'on ait. D'ailleurs, les premiers versets sont parlants et ils s'adressent à tous ceux qui poursuivent la justice et qui cherchent l'Éternel. Est-ce qu'il y en a ce soir qui sont dans ce cas-là ? Eh bien, écoutez-moi, il est dit. Je le lis. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen.
Trois étapes dans la vie d'Abraham, qui sont résumées par le prophète Ésaïe, qui est inspiré par le Saint-Esprit pour parler de la vie d'Abraham. Je trouve que c'est un beau résumé. Je l'ai béni, je l'ai d'abord appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Et c'est un principe qu'on a besoin de saisir. Et notre foi a besoin de rentrer dans le mécanisme que Dieu a tout mis en place pour que nous puissions être bénis. Mais il faut que nous apportions notre part à nous. Il faut que nous mettions. J'avais cette image. Alors, elle est toute simple, elle est même un peu bête. Mais l'image d'un distributeur automatique, souvent on dit, surtout ne pensez pas à Dieu comme un distributeur automatique de bénédiction. Parce que c'est pas ça. Dieu, il n'est pas là à notre service. Mais par contre, Dieu, il a préparé toute chose, toute grâce. La Bible nous dit que nous sommes bénis déjà de toute bénédiction spirituelle. C'est déjà fait. Simplement, il faut que nous puissions l'activer par la foi. C'est comme si on mettait une pièce dans un distributeur et que la bénédiction que Dieu a déjà préparée, parce qu'on accepte d'avoir confiance en Dieu, on met la petite piécette dans le distributeur et là, ce n'est pas une canette de coca qui descend, c'est une bénédiction de Dieu qui vient parce qu'on a mis notre foi. Mais ce qui est incroyable avec le Seigneur, c'est qu'il ne se contente pas de donner une bénédiction. Il y a la multiplication des bénédictions. Il y a la multiplication. Notre Dieu, c'est le Dieu d'abondance. Alors, j'aimerais qu'on puisse aller voir les promesses que Dieu a faites à Abraham. Deux promesses en particulier, parce qu'il y en a plusieurs. Et ça prendrait du temps de voir tout. Mais deux promesses bien précises que Dieu a faites à Abraham. Et on va voir que dans ces promesses-là, Dieu a appelé Abraham, Dieu l'a béni et Dieu l'a multiplié. Dans les deux promesses, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, c'est le moment où Dieu justement appelle Abraham. Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'il ne s'appelle pas encore Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de sa mère, son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour arriver dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Première chose donc qu'il est question dans ce passage, l'appel de Dieu envers Abraham. On est d'accord ? L'Éternel dit à Abraham et il lui donne au travers de cette parole une mission, quelque chose de particulier. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte même la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Première promesse de Dieu, c'est un nouveau pays. Un pays dont il ne sait pas trop ce qui consiste, mais en tout cas, Dieu lui promet quelque chose. Et c'est la première chose, la première étape, c'est la vocation, c'est ce que Dieu appelle Abraham de faire, mais cet appel d'aller dans ce pays passe forcément, obligatoirement, par cet autre appel, celui de quitter. C'est logique. Si je veux aller dans un endroit que Dieu m'appelle d'aller, il faut que je quitte l'endroit où je suis. Et quitter l'endroit où on est, ça passe par des difficultés, par des renoncements, par des combats dans notre cœur. Ça passe par toutes sortes de choses. Le pays dans lequel il était, c'était la Chaldée, et il y a Ur en Chaldée en particulier. Alors si on lit le texte rapidement, on a l'impression qu'il est à Charan quand Dieu l'appelle, mais plusieurs passages de la Bible nous précisent bien qu'il était déjà à Ur en Chaldée quand il a entendu l'appel de Dieu, quand il a entendu le Dieu de l'univers lui parler, lui dire « quitte ton pays ». Et cet appel a tellement retenti dans son cœur que même son père, qui n'avait pas eu l'appel directement, a voulu participer au voyage. Et le problème, c'est que son père s'est arrêté à Charan. Alors si on étudie la carte, on se rend compte qu'il y a de nombreux kilomètres, mais on se rend compte surtout que Charan, c'est en plein milieu du voyage par rapport au pays d'Israël. C'est juste au milieu. Et Ur en Chaldée, c'était une ville, une grande ville comme aujourd'hui, on pourrait dire que New York ou Paris, une ville où il y a beaucoup d'essor, beaucoup de remue-ménage, beaucoup de progrès, beaucoup de sécurité, tout ce que vous voulez. Plein de développement économique, plein d'avancées scientifiques même. Il y a des découvertes scientifiques, des découvertes archéologiques qui ont été faites dans ces endroits-là, qui montraient qu'il y avait une grande avancée dans les mathématiques, par exemple. Au temps d'Abraham déjà, et même avant. Et Abraham, il avait là non seulement tous ces aspects-là, la vie quotidienne qui était intéressante, mais il avait surtout ses attaches depuis toujours, c'est le lieu où il est né, c'est son pays, c'est sa patrie, c'est l'endroit où il est né et où il avait pris ses repères, l'endroit où il se sentait bien, l'endroit où il avait grandi, l'endroit où il avait tous ses souvenirs. Et Dieu l'appelle à quitter toutes ces choses. Et puis la dernière chose que Dieu l'appelle à quitter, qu'il ne va pas faire tout de suite, parce que quand Dieu voit, quand Dieu nous appelle, il sait que notre foi, il faut du temps à démarrer, souvent. Abraham, même si c'est l'exemple de foi, il a eu ce moment donné dans sa vie où il s'est attardé, son père est venu avec lui, mais à cause de son père, ils se sont arrêtés, et ce qui devait être seulement qu'une étape dans leur voyage est devenu un endroit où ils ont séjourné pendant des années. Et ils sont restés à Charan. Charan, c'est un lieu qu'on connaît bien. Qui est déjà allé à Charan? Mais si, moi j'y suis allé, je peux vous le dire. Alors pas le Charan de l'époque, ni la ville que c'est devenu aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle ville ça se situe, mais le Charan spirituel, j'y suis allé, je peux vous le dire. Et heureusement, j'en suis revenu. Charan, ça veut dire le lieu desséché, le lieu désert, le lieu enflammé, le lieu sec. Et je peux vous dire que je suis allé à Charan. Je me souviens quand quelqu'un a témoigné de ma part, avant de me connaître, quand j'étais vraiment au Seigneur, il a dit, ce jeune garçon, il est bien gentil, mais il est sec. J'y suis allé à Charan, je connais. C'est cet endroit dans notre vie chrétienne où on a bien commencé, on est bien parti, on a une promesse de Dieu, on a un appel, on a quelque chose pour servir le Seigneur. Et puis en plein milieu, il y a des difficultés, peut-être qu'il y a des souvenirs du passé qui remontent, peut-être qu'il y a des choses qui ressurgissent de notre passé qui sont là et qui nous amènent à baisser les bras, à dire « ben ça suffit, je vais rester, tant pis, j'ai déjà bien avancé, c'est encourageant, mais je m'arrête là ». Et Charan, c'est cet endroit-là où il y a... Dieu voudrait tellement nous donner ce pays de la promesse, et nous, on s'arrête à Charan, au lieu qui est sec. On ne trouve pas l'abondance que la promesse de Dieu, on ne trouve pas une vie spirituelle enrichie. Notre témoignage, il n'apporte rien quand on parle, quand on ouvre la Bible, ça ne nous parle pas. Il y a toutes ces choses. On a la Bible dans notre main, mais ça ne nous touche pas dans notre cœur. C'est ça le lieu de Charan. Alors, je ne vous demande pas à nouveau la question. Mais est-ce que vous êtes déjà allé à Charan? Comprenez ce Charan-là? Je crois qu'on y est tous passés. Et le but de l'appel que Dieu a lancé à Abraham, ce n'était pas le pays directement. Le but de l'appel, c'était que Abraham soit en communion avec lui. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi je me mets à la place d'Abraham. Va dans un pays que tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros... Il faut que tu dépendes de moi, parce que jour après jour, je vais te diriger, je vais te conduire. Est-ce que Dieu, il n'aurait pas pu lui donner des indications claires dans cette prophétie-là? Il n'aurait pas pu dire, alors, quand tu auras vu la montagne grise, tu tourneras un peu sur la gauche, tu suivras l'Euphrate pendant tant de kilomètres. Est-ce qu'il n'aurait pas pu lui donner quelque chose de clair? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, lui qui est tout puissant, comme il a fait à Moïse, graver sur une table de pierre les indications, un mapi amélioré? Il aurait pu le faire. Mais est-ce que Dieu a choisi ce moyen? Non. Dieu ne voulait pas seulement lancer un appel comme ça. Il voulait surtout que Abraham puisse être en communion avec lui. Comme Dieu veut que nous soyons en communion dans chacun des aspects de notre vie et dans tous les domaines qu'il nous demande de quitter. Il ne nous dit pas des fois de manière précise et détaillée ce que nous avons à faire, mais il veut que dans notre communion, nous apprenons ces choses. Il veut nous révéler sa volonté alors que nous développons une communion avec lui, alors que nous avons une proximité. Et vous savez que Ur en Chaldée, c'était un endroit où ils adoraient les idoles, en particulier la lune était adorée, il y avait le culte de la lune. Et Dieu, il était là, il voulait dire, moi, je ne suis pas un Dieu mort, je ne suis pas quelque chose d'inanimé. La lune, c'est bien joli, mais c'est inanimé la lune. Alors ça paraît bouger parce que c'est les planètes qui bougent, etc. Elle bouge aussi d'ailleurs, mais en elle-même, la lune, elle est morte. Dieu, il voulait dire à Abraham, moi je suis vivant. Et moi, pour me chercher, c'est quelque chose qui est journalier, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui demande un effort de tous les jours. C'est une communion véritable. Et je pensais à ce verset que Jérémie a donné, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Comprenez? Abraham, il avait vécu dans un environnement où les gens adoraient des choses, des idoles. Alors peut-être qu'il y avait des statues, peut-être qu'ils adoraient la lune directement, mais tout ça, c'était mort. Et Dieu est en train de lui dire, je veux, moi, que tu aies cette communion, que ta foi s'exprime envers quelque chose qui est vivant, quelque chose qui a besoin d'être recherché jour après jour, quelque chose, une personne d'ailleurs. Je suis une personne, je suis le Dieu Tout-Puissant, et je t'appelle à quitter cet endroit-là pour te confier quelque chose, une bénédiction, quelque chose qui va te surprendre, qui va te permettre même d'être en bénédiction aux autres. Plus que toi-même d'être béni, tu vas devenir une bénédiction. Ça va être multiplié. Et aujourd'hui encore, Dieu nous appelle de cette manière-là. Aujourd'hui encore, Dieu nous demande d'avoir une relation vivante, pas être figé dans notre vie chrétienne, mais avoir une relation vivante, quelque chose qui est là de tous les jours. Dieu nous appelle à avoir cette communion personnelle véritable et profonde avec lui. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il y a la bénédiction. On l'a lu, Abraham, il a accepté, et bon, ça a pris du temps parce qu'il a attendu que son père y meure, mais à la mort de son père, il est parti au pays de Canaan. Et il a parcouru le pays, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la promesse de Dieu. Dieu lui promet un pays, lui, il arrive dans le pays, et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que quand il nous promet certaines choses, il précise. Vous savez, souvent, les gens disent « Dieu m'a parlé », et puis ils disent une parole très vague qui pourrait s'appliquer à tout le monde, et puis ils n'ont aucune conviction dans leur cœur que c'est vraiment Dieu qui leur a parlé. Si Dieu veut nous parler de manière précise, il va il va préciser de plus en plus les choses. Regardez quand Gédéon, il n'était pas sûr de ce qu'il fallait faire, pourtant il avait eu un ange en face, hein, quand même. C'était déjà bien, mais lui il a voulu des preuves de plus. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je t'ai donné assez, tu te débrouilles avec ça. Il a dit non, d'accord, on va faire ce que tu veux. La toison qui était mouillée, puis qui n'était pas mouillée, le terrain qui était mouillé, qui n'était pas mouillé, etc. Il a eu les précisions qu'il avait besoin d'avoir. Et même encore quand il allait attaquer les personnes, il y a eu une prophétie, qui s'est servi des ennemis pour lui parler, etc. Quelque chose de magnifique. Et Dieu fait la même chose avec nous. Regardez pour Abraham, Dieu lui dit, va dans un pays que je te montrerai, mais le moment donné où Abraham il met les pieds dans le pays, même c'est l'endroit, il était littéralement au milieu du pays. Sichem, c'est le milieu du pays. Et il se trouve là, et Dieu lui apparaît et lui dit, le pays sur lequel tu es maintenant, c'est celui-là que je te donne. Jusqu'à présent, on ne sait pas trop s'il savait qu'il allait s'arrêter là. Il était en course, il était en marche, il avait toutes ses caravanes et la famille, etc., qui avançaient. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, maintenant c'est bon, arrête-toi là, c'est le pays. Et puis il lui dit encore plus, il lui dit, parcours-le du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que c'est ce pays-là que je vais te donner. Et il y a certaines personnes qui ont fait des parallèles entre les marches qu'Abraham a fait et le moment où il y a eu la conquête du pays. Vous savez qui c'est qui a écrit la Genèse? Qui a écrit la Genèse? Bien sûr, c'est Dieu par son Saint-Esprit qui a inspiré quelqu'un. Mais qui? Moïse, c'est ça. Et Moïse, il écrit en particulier ces textes pour les donner au peuple qui est sur le point d'entrer dans le pays de la promesse. Au moment donné où les gens ils sont en train de lire ces paroles, au moment donné où ils sont en train de lire le pays de Canaan, il va être pour le peuple, pour Abraham et la descendance, ils sont sur le point, eux, d'accomplir ces choses. Quelque chose d'incroyable. Parce que Abraham, il a fait ce qu'il fallait, il a obéi. Obéi au Seigneur. Il a fait ce que le Seigneur lui demandait, quel que soit le prix que ça a coûté. Et quand on fait ce que le Seigneur nous demande, automatiquement on est béni. Mais si en plus on marche dans cette crainte de Dieu, si on marche dans ce renoncement, si on paye le prix qu'il faut, le Seigneur Jésus a payé le prix pour notre salut, mais si nous on paye le prix de l'obéissance et le prix de l'onction, eh bien il y a une multiplication qui a lieu. Il y a une multiplication qui a lieu, c'est ce qui se passe pour Abraham, parce que au moment donné où il a répondu à l'appel de Dieu, Dieu le fait rentrer dans le pays, mais alors qu'il est dans ce pays-là, on se rend compte qu'il finalement il ne va jamais le posséder vraiment. Le Hébreu nous dit, parle de ces choses et nous dit que quand Abraham était dans ce pays, il était comme un étranger. Et Abraham, il a passé sa vie à être dans la promesse tout en ne l'étant pas, vous comprenez? Mais je sais qu'il a compris, on peut le lire même dans Hébreu, parce que vous ne me semblez pas convaincu. Alors on va le lire, comme ça vous serez convaincu, c'est la parole, vous arrangez avec la parole. Hébreu chapitre 11, verset 10, verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est ce qu'on disait jusqu'à présent. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous voyez, c'est par la foi qu'il a fait tout cela. C'est par la foi qu'il savait qu'il était dans un pays qui ne lui appartenait pas, mais qui, par la promesse de Dieu, allait lui appartenir. Et parce qu'il a accepté de vivre dans cette condition-là, parce qu'il a accepté d'avoir ce renoncement pour son propre intérêt à lui, il a pu avoir la multiplication de la grâce de Dieu, de la bénédiction. Il a été appelé, il a été béni, mais sa bénédiction a été multipliée et elle a béni d'autres personnes encore, c'est ce qu'il est dit. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait en fait littéralement de voir le royaume de Dieu carrément venir sur terre. Et on sait que quand Jésus est né dans ce pays-là, et quand il est né, une des premières paroles qu'il a dit, c'est qu'il était venu amener le royaume de Dieu. Il était venu pour que le royaume de Dieu soit proche. Il disait, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, rentrez. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est venu parler d'un royaume qui était plus que le royaume d'ici-bas. Il est venu parler du royaume de Dieu. Et ce soir, nous avons besoin de réaliser que Dieu nous appelle à entrer ou à continuer de marcher et à vivre dans ce royaume-là de Dieu, où Dieu est le maître, où Dieu règne, où Dieu est le Tout-Puissant, celui qui nous donne les directives et nous obéissons. Et si nous acceptons de marcher dans cette dimension-là, il y a la multiplication, automatiquement. C'est-à-dire que quand je vais recevoir le salut, je ne vais pas recevoir seulement le salut pour moi, mais je vais commencer à déborder, à parler du salut autour de moi. Si je reçois le Saint-Esprit, je ne vais pas seulement être le temple du Saint-Esprit, mais je vais déborder du Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu me permettra de faire par son Esprit. Vous comprenez? Il y a la multiplication dès l'instant où il y a l'obéissance. Deuxième promesse, la promesse d'un peuple, un peuple nombreux. C'est dans Genèse chapitre 17, on revient à Genèse. Genèse chapitre 17, et il est dit au verset, on peut relire à partir du verset premier. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il y a du temps qui est passé, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. » Vous avez vu la condition ? Marche devant ma face et sois intègre. Et la promesse, elle est évidente, c'est que non seulement il y a le pays, il y a l'endroit où il va habiter, qui va être à ses descendances, mais il y a aussi une descendance. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Si on voit Abraham et qu'on regarde physiquement à quoi il ressemble, il s'agit d'un vieillard, il a 99 ans et il est toujours sans enfant. C'était une honte à l'époque de ne pas avoir d'enfant. L'enfant c'était la richesse, l'enfant c'était la bénédiction. Et cet homme-là, Dieu lui demande de laisser son nom, père élevé, Abraham, et de prendre le nom père d'une multitude. Et j'imagine le moment où, quand il se présentait au chef des tribus voisines, il devait dire, mon nom, ça, c'est Abraham. Et les gens, ils devaient se marrer et dire, mais toi, Abraham, alors t'as pas d'enfant, t'es un vieillard et tu es le père d'une multitude. Et je crois qu'il devait assumer toutes sortes de moqueries, toutes sortes de paroles méchantes et moqueuses et qui, les gens même devaient blasphémer contre Dieu à cause de cette parole-là. Mais Dieu, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, c'est moi qui t'appelle, père d'une multitude. Parce qu'à un moment donné, Dieu a voulu lui dire, maintenant il faut que tu changes ta façon de penser, que tu mettes ta foi en action. Je veux t'appeler père d'une multitude parce que je veux te bénir. Et des fois, on a dans nos vies, dans nos cœurs, on a des pensées qui sont là et sur lesquelles on a marqué impossible, sur lesquelles on a marqué désespoir, sur lesquelles on a marqué découragement, qui sont là bien intégrées dans notre cœur. Et Dieu voudrait totalement changer le nom de ces choses-là et dire « Moi, je te donne l'espoir. Moi, je suis celui qui te console. Moi, je suis celui qui te libère de tels péchés. » Et si on est accaparé par toutes sortes de pensées, eh bien, prions le Seigneur. Jésus a dit à un moment donné à ses disciples même, pourquoi avez-vous dans le cœur de telles pensées? Pourquoi avez-vous des pensées vaines dans votre cœur? Le Seigneur veut placer ce soir, par sa parole, une pensée qui est inspirée pour vous encourager, pour vous communiquer une grâce, pour vous amener plus loin dans sa présence. Ça, c'est l'appel d'Abraham à changer de nom. changer de nom. Et nous devons avoir cette attitude dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos situations, de dire, Seigneur, j'en ai marre de m'appeler découragé. Je veux m'appeler maintenant encouragé, renouvelé par ton Saint-Esprit. J'en ai marre de m'appeler épuisé. Seigneur, je veux m'appeler fortifié par ta grâce. Et vous comprenez toutes les choses, toutes les applications que nous pouvons faire. Et si nous sommes sérieux avec le Seigneur, la bénédiction ne va pas tarder. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'accomplissement de sa promesse se réalise, on ne va pas le lire, mais au chapitre 21, et on voit que Dieu met en œuvre sa promesse, alors que même Abraham, il a ri lui-même de cette promesse. Dieu lui a précisé les choses encore une fois. Au début, il croyait, Abraham, que c'était son serviteur qui allait être la descendance, à partir de son serviteur Eliezer. Et puis, Dieu lui précise, non, ce n'est pas ton serviteur, c'est le fruit de tes entrailles. Et puis, plus tard, Dieu lui précise, maintenant tu vas l'appeler Isaac, parce qu'Abraham, il avait essayé de faire les choses par ses propres forces. Le résultat, c'était Ismaël. Et il a dit, mais je vais avoir une descendance au travers d'Ismaël. Et Dieu lui dit, non, celui que je bénis, celui que je veux vraiment apporter l'alliance entre toi et moi, c'est avec Isaac. Il lui précise le nom, et même dans la foulée, il lui précise le moment de quand ça va arriver. Vous voyez, quand Dieu veut être précis, il peut l'être. Mais il faut que ça vienne de lui. Il ne faut pas que ce soit de nos propres pensées. Et la bénédiction n'a pas tardé. Dieu nous encourage. Des fois, on a besoin que Dieu nous encourage. Et il le fait. Si on lui demande sincèrement, le Seigneur le fait. Mais pour que cet aspect-là de sa vie puisse être amené à la multiplication, il a fallu qu'Abraham, on connaît l'histoire, accepte d'aller sacrifier son propre fils. Et c'est à ce moment-là, au moment où Abraham a accepté de sacrifier son fils, que Dieu a multiplié la bénédiction. Et on va lire juste là ce qu'il en résulte. Chapitre 22, verset 15. Chapitre 22, verset 15. Le chapitre 22, c'est l'histoire où Abraham veut sacrifier son fils et Dieu l'arrête au dernier moment. Et au verset 15, c'est la promesse que Dieu lui fait. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, vous entendez bien, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et multiplierai ta postérité. » Et il lui donne des éléments pour comparer, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Tout simplement, parce que tu as accepté d'amener ce que tu avais de plus cher et de m'obéir à ce point-là, de m'aimer à ce point-là, à cause de cela, il va y avoir la multiplication de la bénédiction, non seulement sur toi, sur ceux qui t'entourent, mais sur toutes les générations futures. Et vous savez que nous sommes bénis par Abraham, l'apôtre Paul en parle dans les Épîtres, on voit très bien que tous ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham, et ils sont dans la bénédiction d'Abraham parce qu'il a accepté de faire ces choses. Mais plus que cela, à cause de cette descendance, et je finis avec ces choses, à cause de cette descendance qu'Abraham a voulu mettre après le Seigneur, qu'il a mis sur l'autel, et que Dieu a béni par la suite, de cette descendance est venu Jésus-Christ. Jésus, fils de David, comme on appelle. David, c'était un des arrière-arrière-petits-fils de Judas. Et Judas, c'était un des fils de Jacob. Jacob, c'était le fils d'Isaac. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Jésus, il est la lignée. Il est la postérité, de manière spirituelle, d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham a rejailli par l'œuvre que Jésus a faite. Et Jésus, vous remarquerez que c'est la même chose. Pour que le salut puisse nous être bénéfique, au bénéfice, pour que nous puissions être touchés par son œuvre incroyable, il a fallu qu'il fasse une chose, il a fallu qu'il donne sa vie. Et quand on veut que notre bénédiction puisse être multipliée, ça demande obligatoirement un renoncement. Jésus l'a dit lui-même, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il a besoin de mourir. Il a besoin de renoncer à certaines choses. Abraham, il a renoncé à son fils parce qu'il savait que Dieu lui avait fait des promesses. Il s'engageait, même si c'était dur sur le coup, mais il s'engageait pas beaucoup puisque Dieu l'avait promis. Et ce soir, je voudrais simplement vous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu vous a promis ? Est-ce qu'il y a une parole dans votre cœur qui est là, qui résonne depuis des années? Vous savez, les paroles de Dieu, elles ne tombent jamais à terre. Un dernier passage dans Néhémie chapitre 9 qui nous montre encore une fois le résumé de la vie d'Abraham. Néhémie chapitre 9 et le verset 7, il est dit ces choses, ça résume ce qu'on vient de partager. « C'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. » Néhémie 9, verset 7. « Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Guirgasiens et tu as tenu ta parole car tu es juste. » Je ne sais pas ce soir quelle parole le Seigneur vous a déjà donnée, quelle promesse le Seigneur vous a faite. Je ne sais pas même dans quelles conditions. Il y a tellement de moyens que le Seigneur utilise pour partager la parole, pour nous encourager. Des fois, c'est en discutant avec un frère ou une sœur à la sortie de l'église ou à la maison. Des fois, c'est par téléphone. Des fois, c'est nous-mêmes en lisant la parole, il y a un verset qui nous parle. Des fois, c'est en écoutant un message. Peu importe le moyen d'ailleurs. L'important, c'est est-ce que vous avez une promesse de Dieu ce soir? Et si vous l'avez, est-ce que vous êtes comme Abraham? Cet exemple de foi qui a persévéré dans la promesse, qui a persévéré, mais il n'a pas regardé à ce qui l'entourait, il n'a pas regardé même à sa propre vie, à son propre état physique, il a regardé surtout à ce que Dieu lui disait. Et il a entendu l'appel de Dieu, mais plus que l'entendre, il a répondu à l'appel. Beaucoup peuvent entendre l'appel de Dieu. Dieu, il appelle, son appel, il est lancé à tous les hommes d'ailleurs. Mais il y en a peu qui répondent. Et le Seigneur voudrait... Regardez ce soir, qui va répondre à son appel? Il y a tellement de choses auxquelles le Seigneur nous appelle, mais est-ce qu'il ne nous appelle pas déjà à la communion? Est-ce qu'il ne nous appelle pas à la sanctification? Je pourrais vous donner des versets qui attestent ces choses. Est-ce que le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une communion véritable avec lui? Est-ce que le Seigneur ne nous appelle pas, peut-être pour quelqu'un qui est pas au Seigneur, au salut ce soir? Quel que soit notre état, le Seigneur nous appelle. Maintenant, c'est à nous de répondre. Maintenant, c'est à nous de dire, Seigneur, oui, je veux répondre par la foi à ton appel parce que je désire la bénédiction et parce que je veux plus que être béni moi-même, mais je veux être une bénédiction. Je veux que ça soit multiplié. Quelle est cette promesse que le Seigneur vous a donnée? Sachez que si vous faites ce qu'il vous demande, ça sera plus, il vous donnera plus que ce qu'il vous a promis. C'est les lois du royaume de Dieu, c'est comme ça. Même si vous n'êtes pas d'accord. Parce que son esprit est tout puissant. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Alors recueillons-nous pendant quelques instants et laissons le Saint-Esprit nous rappeler peut-être une promesse. Quelqu'un a enfoui dans son cœur une promesse que Dieu lui a faite. Quelqu'un a gardé un nom qu'il avait sur lui-même, le découragement, l'épuisement, peu importe le nom qu'il se donnait. Et le Seigneur voudrait changer ton nom ce soir. Le Seigneur voudrait t'appeler bénédiction. Tu vas être utile entre ses mains pour bénir non seulement ta vie, mais pour bénir les vies qui sont autour de toi. Simplement, sois obéissant. Marche devant la face de Dieu. Aie une relation véritable et sois intègre, comme Abraham a pu l'être, malgré ses défauts. Ce soir, je n'ai pas lu tous les passages où Abraham a failli, toutes les fois où il s'est trompé, toutes les fois où il a agi par lui-même. Mais ça nous montre simplement qu'Abraham, c'était un homme comme nous. Mais qui a eu, à un moment donné, la foi qu'il fallait. Ce soir, le Seigneur te demande mais d'avoir cette foi-là, toute simple. Sa foi, que la promesse qu'il t'a faite, elle va s'accomplir. Peu importe les circonstances, peu importe que les nuages soient noirs autour de toi, peu importe qu'il semble y avoir tant d'ennemis, tant de circonstances défavorables, le Seigneur te dit que s'il t'a promis quelque chose, il va le faire. Rien de ce que Dieu dit n'est impossible, la Bible nous dit. Rien de ce que Dieu dit, rien de ce que Dieu prononce n'est impossible, parce que sa parole est toute puissante, sa parole est agissante, sa parole est efficace. Alors ce soir, laisse ton cœur s'ouvrir et être rafraîchi par la parole de Dieu. Et le Seigneur, oui, t'encourage. Le Seigneur t'encourage à te remémorer les promesses qu'il t'a faites et à te dire qu'il va accomplir ces choses sur ta vie parce qu'il t'aime. Toi simplement, accepte de mourir à toi-même, accepte de quitter ce que le Seigneur te demande de quitter. Renonce à ton ancienne vie et tu vas voir la bénédiction se multiplier par la grâce de Dieu. Non, on ne mérite pas toutes ces choses, personne ne mérite ces choses, même pas Abraham ne mérite d'être béni à ce point. Et pourtant il a été. parce qu'il a fait ce que Dieu lui demandait. Que son nom soit béni. Merci Éternel, oui, que ton nom soit béni Éternel, parce que tu es ce Dieu qui est tout puissant, qui nous a donné les moyens pour que nous puissions être bénis et en abondance, Seigneur, pas seulement pour nos vies, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas recevoir tes bénédictions de manière ingrate, de manière égoïste aussi, Seigneur, mais nous voulons qu'elles soient multipliées, ces bénédictions, pour que les gens qui sont autour de nous en bénéficient, Seigneur, par ta grâce. Merci parce que tu désires, Seigneur, utiliser chacun d'entre nous pour toucher les voisins, pour toucher les amis, les collègues de travail, peu importe les personnes qui nous entourent, les gens de nos familles, Seigneur. Toi qui les connais, toi qui les aimes, tu désires te servir de nous. Alors nous voulons, Seigneur, dans ces moments, simplement être ce réceptacle, Seigneur, de ton Saint-Esprit, que nous puissions être, oui, ces vases de terre remplis de ce message glorieux de l'Évangile, Seigneur, dans ces moments, par ton Saint-Esprit, travaille nos cœurs, remplis-nous et bénis-nous dans ces instants, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, nous te prions. Tu visites, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas dans ces moments, ceux qui te découvrent peut-être ce soir. Tu leur permets de voir que oui, tu les appelles à ce salut, tu les appelles à cette grâce d'être sauvés du péché, tu les appelles aussi à cette délivrance du péché dans la vie nouvelle que tu leur offres, Seigneur. Par ta grâce, à cause du sacrifice de Jésus qui a tout abandonné, qui a abandonné la gloire, qui a abandonné cette puissance qu'il avait dans les cieux pour que nous puissions, nous, être des enfants de Dieu. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.